Alors finalement, on a repris le travail cette semaine et puis là, on revient un peu plus à la normale dans nos choix de vin. Après s'être payé à la traite un petit peu plus pendant le temps des fêtes, alors il faut y aller mollo.
Il y a les mollo quand même.
Un petit peu plus mollo, Jessica. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par un vin qui provient donc du Chili.
Hein? Oui, exactement.
On l'appelle le Clou des Fous Itata.
Itata, j'espère que ce n'est pas pour être tata, parce que...
Non, mais c'est une région, ça, Itata.
Itata, c'est une région, effectivement, mais on fait toujours des blagues. Je suis allée visiter le Chili. Premièrement, quel beau pays. C'est exceptionnel. Les gens sont gentils, vous êtes en sécurité. Vous avez même le rythme à 100 $ la nuit. C'est sublime, là. Mm-hmm. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant de beauté. J'ai été subjuguée. Et il y a à peu près tous les climats. C'est très, très mince. Sur la côte, et vous avez les Andes. Donc, vous avez toutes les montagnes. Et le Clos des Fous, ça le dit. Donc, c'est des Français. Ils ont décidé de s'installer sur un clos, donc un montant qui est très, très difficile à vendanger, à planter. Ils ont décidé d'aller dans l'expression du terroir.
Faut que tu sois fou pour faire ça. Hein?
C'est justement. Faut que tu sois complètement fou. C'est pour ça que je fais toujours des jokes avec Yé-Tata. Yé-Tata, c'est... Mais c'est l'endroit. Ils sont loin d'être Tata, justement. Ils sont très brillants. Ils ont décidé d'aller soutirer le meilleur du terroir. Ils mettent des efforts incommensurables. Je ne sais pas comment ils arrivent à offrir un vin avec autant de travail derrière à 17 $.
Parce que là, je lisais dans ce que tu m'as donné comme dénomination, il y a quand même 4 raisins, de 4 cépages différents. Là.
Exact, je vais vous les expliquer. On commence avec Cinsault. Quand vous voyez Cinsault, Carignan, Syrah, c'est des cépages très connus habituellement dans le Rhône, dans le sud de la France. Donc, le Carignan, Cinsault, ça donne une structure, une acidité. Et puis la Syrah, mais on l'avait vu la semaine passée, c'est vraiment le poivre noir, un peu floral. Donc, et ils ont une touche de El País, un cépage autochtone qu'on connaît moins. Donc, c'est majoritairement du Cinsault. Tu vas voir, la robe, donc la couleur, est beaucoup plus légère que la semaine passée, on avait un Syrah là, qui était dense, foncé.
Ouais. Ça, c'est plus transparent.
C'est plus transparent. On voit notre doigt lorsqu'on met... T'sais, la robe, c'est toujours la couleur du vin. Et c'est vraiment comme une cerise. Ça donne le ton. Ce ne sera pas hyper explosif en bouche. Donc, lorsqu'on le sent, on est dans un millésime 2017, on a des arômes, non pas de fruits, mais d'autres sortes d'arômes. Un peu herbacé, un petit peu... Ouais, c'est intéressant.
Mais ça sent frais, par exemple.
C'est exactement ça. Ben, t'es en hauteur, donc ça sent frais. Ça va chercher l'expression du terroir, c'est pour ça qu'on paie. Et en bouche, t'as vraiment un éclat où je trouve que t'as pas beaucoup de tanin, une belle vivacité, ce goût qui est indescriptible, qui goûte presque la tomate. T'sais, c'est vraiment végétal, herbacé, mais pas en défaut, là. Vraiment, parce que des fois, quand c'est vert, c'est que les vendanges sont faites trop tardivement.
Ah, OK.
Là, t'as vraiment une autre sorte de goût qu'on n'est pas habitué. Donc là, vous pouvez sortir là, tous les produits de racine. T'sais, du navet, des carottes, du salsifis. Faites un beau bouilli de bœuf. Une sauce, là, t'sais, une sauce là, qui est bonne, qui goûte avec un bon fond. Et vous allez avoir un vin qui va rehausser le tout et surtout votre palais. Parce qu'il n'est pas très prenant, pas beaucoup de tanins. Donc, le Clos des Fous Itata, pour tous ceux qui nous écoutent, là, ça va aller chercher ceux qui aiment peut-être même les vins bordelais. On est au Chili, mais ça a une trame de vin bordelais, même si c'est des cépages du Rhône. Donc, franchement, beau gros coup de cœur. J'adore cette cuvée-là. Je trouve qu'elle est différente. Et à 17 $95, ça vaut vraiment la peine.
Et pas très sucré non plus.
Absolument pas.
Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de sucre là-dedans?
T'en as pas, là. T'es à 1,7 grammes.
Donc, ça enlève tout le côté fruité de la patente.
Exact. Hein? Et moi, je suis pas une fille qui aime les vins sucré. Ah bon. Des fois, je vous en propose, tu sais, parce que ça prend plusieurs palais pour faire un monde.
Ah, ben oui.
Et c'est bien correct. Le second vin, vous allez chercher des arômes un peu plus de fruits confits. Là. Je vais vous amener là. On s'en va en Italie pour le deuxième.
Oui, puis c'est un Valpolicella, le prochain. Là.
Exactement. Fait que, tu sais, là, le premier, vous avez un vin qui est très droit, plus sec, un peu végétal. Dans le deuxième, on parlait de sucre. Bon, c'est pas qu'il y a du sucre, mais la méthode Ripasso. Ripasso, ça veut littéralement dire je repasse dessus. Parce que l'amarone, qu'on connaît, qui coûte cher, on fait sécher les raisins. On appelle ça du passerillage. Donc, tu prends tes raisins. D'habitude, c'est du Corvina, là, en grande majorité. Corvina, Rondinella, Molinara. On dirait que je chante une toute. Je ne suis absolument pas italienne, à part si je bois un verre. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le goût un peu confit. Tu sais, quand tu parles de raisins de Corinthe, de prunes, de prunes séchées comme des pruneaux, de figues, mais ça coûte très, très cher. Donc, la méthode moins chère, c'est le ripasso. On est dans la Valpolicella en Vénétie. Ils vont littéralement faire un vin et ils vont repasser sur les lits. Donc, c'est comme si c'était une refermentation sur les lits. Fait que c'est comme si c'était un bébé Amarone pas cher. Fait que ça
revient, c'est pour
avec...
ça qu'il y a plus d'accord que l'autre que tu nous as suggéré. Là,
exact.
Parce que je faisais l'amalgame pendant que tu me parlais là, pour voir.
Ah, t'es ailleurs, là. T'es à 14 % d'alcool, premièrement.
Puis il est plus foncé, d'ailleurs.
Il est beaucoup plus foncé. L'autre est à 13,5, mais on ne le goûtait absolument pas. C'était la fraîcheur qui dominait. Ici, on est dans une autre trame. T'as un petit peu plus de sucre résiduel.
Oui, mais il y a plus d'alcool en bouche, par
beaucoup
exemple.
Plus. Okay. Ça ressemble presque à une trame de Porto. Tu sais, le Porto, okay, là, oui. L'éclat en bouche d'alcool un peu plus vineux, capiteux. C'est Tedeschi qui fait ça. Je trouve ça très, très bien fait. C'est le San Rocco, importé par Céleste Levure, une maison que j'aime beaucoup. Donc, un ripasso, là, pourquoi j'ai presque toujours ça chez moi, c'est que j'aime cuisiner. Donc là, ça vous tente pas de faire des grosses bouffes. Vous avez le goût de faire une pâte simple. Tu sais, vous faites poêler des champignons, vous faites des rigatoni. Tu sais, des fois, vous avez une sauce là, qui traîne, une belle sauce à la viande. Ou si ça vous tente, là, vous n'avez rien à faire, faites-vous de la belle sauce. Ça sent bon. Et je trouve qu'un ripasso, ça va bien avec le côté tomaté. C'est réconfortant. Ah, vraiment.
Moi je n'étais pas là.
Ah non, t'étais où, là?
Je voyais mon rib, là.
Ah, tu peux. Mais là, c'est là que je t'amène.
Bon,
là, c'est un gars, là.
Poivres,
tu peux aussi, parce que c'est drôle, parce que c'est exactement l'autre penchant de la médaille. Okay. Dans un premier temps, si tu le sers bien frais, la température va jouer beaucoup. Moi, je le sers frais. Je le passe en carafe pour enlever ce côté capiteux-là et je le mange avec mes pâtes.
OK, pour l'aérer, ça.
Exactement. Okay. Si je le mets un peu plus chaud, je veux garder là comme on l'a, là. Tu sais, vineux, tu vois que les jambes, une fois, la couleur de la robe est puissante. Les jambes, c'est ce qui colle sur le verre. Tu sais, c'est tout là. Là, tu sors ton rib, là.
Ça, c'est le côté qui semble un petit peu plus gras, là, qui laisse
c'est
la trace.
C'est soit gras quand t'es dans du blanc, quand t'es dans du rouge, c'est du sucre ou de l'alcool.
Ah, c'est, OK.
Si je t'avais mis du sirop d'érable dans le verre, ça l'aurait collé sur les parois.
Ouais, c'est ça,
ou du porto. Okay. Ça colle. Donc, dans le verre, là, quand vous voyez ce qu'on appelle les jambes, ce qui coule sur la paroi du verre, c'est soit du sucre, de l'alcool ou du glycérol, le côté gras. Okay. Donc, tu as effectivement raison. Et puis, justement, là, quand vous filez un petit peu plus, là, cochon, j'ai pas d'autres mots, là, tu as une belle grosse côte levée, waouh, là, une sauce. Les sauces, il faut faire attention. Tu peux avoir une sauce barbecue qui picote, tu sais, qui est trop, waouh, un peu acide, ou une sauce sucrée. Et celle-là va être super. Il y en a qui sont très fumées aussi. Faites attention parce qu'une sauce de côte levée trop fumée va dominer ce vin-là.
Il ne faut pas que le vin soit dominé par la sauce.
Exact. Pensez toujours à un ring de boxe. Okay? Fait que si je mets une petite crevette dans un ring de boxe avec ce vin-là, ben la pauvre crevette, elle sort du ring. Ça ne vaut pas la peine de payer pour elle. Si j'ai une côte levée dans mon ring de boxe avec ce vin-là, ils vont avoir un bon match. Tu comprends? C'est ça le match parfait.
Ça doit être pour ça qu'en restaurant, quand tu vas dans un restaurant où, qui se tient debout, là, que ton vin a toujours l'air meilleur que chez toi, pourtant, c'est le même vin.
C'est la façon. Il va avoir, justement, la température joue pour beaucoup. Gardez toujours la règle du 20-20, tu sais, 20 minutes dans le frigo pour ton rouge si tu n'as pas de cellier, juste pour le chambrer un peu.
Ouais.
Sinon, vous le gardez à 14-15 degrés dans ces eaux-là.
C'est ça.
Idéalement. Tous les vins qui sont capiteux, tu sais, puis ceux qui souffrent là, de maux de tête ou des sulfites, pourquoi pas l'aérer, les jeunes vins? Let's go. On met ça dans une carafe. On enlève, justement, les sulfites, les gaz, ça s'évapore. Et puis, ça va faire une impression d'oxydation. Donc, si tu vieillissais ton vin un petit peu. Par contre, fais pas l'erreur d'un de mes clients. Là. Il a mis un vin qui c'est 1960. Il l'a aéré pendant 18 heures, je crois.
Wow.
Il a dit que ça faisait longtemps qu'il était dans la bouteille. Mais là, il a tué le vin. Il faut pas faire ça. Il faut décanter un vieux vin. Okay? Tu y vas tranquillement pour séparer le vin de la lie. Et puis, tu le sers dans l'heure qui suit, à peu près, pour avoir ton summum. Là. Tu sais, le pic du beau moment.
Faut le décanter. Il faut pas le filtrer. Là.
Et,
Il y en a qui vont utiliser comme une espèce de d'entonnoir avec un fil dedans là, parce que souvent, ce qui va arriver, il va y avoir un lit dedans. Là.
Exact, tu peux.
On peut le faire.
Tu peux le faire. Ça ne change rien de prendre le filtre ou non si, dans les deux cas, si vous avez une bouteille au cellier, que vous voyez qu'il y a beaucoup de lit, vous n'êtes pas obligé. Vous allumez une bougie, règle générale, pour voir la lit arriver dans le col de la bouteille et vous le séparez à la main. Pas besoin d'avoir le filtre à ce moment-là. Donc, tu laisses couler le liquide.
Faut y aller tranquillement.
Très tranquillement. C'est pour ça qu'on dit dès quand il va mollo. Et sinon, si vous avez comme un porto vintage, là, il y en a qui font le saut, là. Il y a une tonne, il y a à peu près une demi-pouce de lit, là.
Dans le porto?
Ah, oui, le vintage. Ah, c'est épouvantable. Il y en a qui se retrouvent, ils prennent une bonne gorgée, puis ils ont ça dans les dents. C'est pas le fun en fin de soirée.
Pourtant, j'ai pris 20 ans, là, pendant le temps des fêtes.
20 ans, c'est pas pareil.
Il y a zéro lit là-dedans?
Non, zéro. Tout ce qui est millésimé. Donc, tu as un 10 ans, un 20 ans, tawny, parce que c'est tawny. Donc, c'est vieilli, ça a la robe un peu grenat, très brunâtre. Non, ça, il n'y a pas de problème. Un L LBV, un late bottle vintage. Oui. Parfois, tu peux avoir des dépôts, parfois non. Mais okay. Un vintage, quand c'est marqué vintage avec l'année directe dessus, mais pas un temps ni, là. Okay. Donc, pas un 10 ans ou un 20 ans. Et vous savez que le 10 ans ou 20 ans, ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans qu'il est là, là. Ça peut être un amalgame, un assemblage d'un 50 ans avec un 10 ans, un 5 ans.
Pour faire... Vous avez une moyenne.
C'est une moyenne.
Arrête donc.
C'est exactement ben... ça. C'est la signature de la maison.
Ah!
Ah ah! Okay. Je vous en apprends, hein?
Ah, oui.
Mon ancien cours de Porto, là, il vient de me sortir.
Okay,
c'est vous, les Porto, mais faites bien attention. Donc, le filtre qu'on parle, mm-hmm. C'est pas grave si vous l'utilisez pour les rouges et pour les Porto, mais au moins, vous n'aurez pas de dépôt dans les dents. Okay. Et parfois, si vous avez des vins qui ont des dépôts, c'est pas un signe de mauvaise qualité. Au contraire, c'est que ça donne de la matière, ça continue à vivre dans la bouteille. C'est juste que c'est désagréable. Ça ressemble à un petit bout de branche, des fois.
Ouais.
Moi, il y a des gens qui boivent mon vin, ils me disent « Hey, j'ai des branches dans ma... » Je dis « Mais non, c'est la lie. » Et ça reste dans la bouteille, le fond de la bouteille, et ça a l'air d'une branche. Okay. Mais c'est des dépôts et c'est tout à fait naturel.
Jessica Arnois, merci beaucoup.
Un grand merci.
Beau conseil encore une fois. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.